Soyez les bienvenus, le journal Sébastien Legenis, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, le droit de manifester pacifiquement est-il fragilisé en France ? Accusation très lourde lancée ce matin par Amnesty International. L'ONG publie un rapport accablant sur ce qu'elle appelle l'acharnement judiciaire contre les manifestants. Précision dans un instant. Le trou de la Sécu s'annonce abyssal, plus de 44 milliards d'euros. C'est aujourd'hui que sera présenté le traditionnel projet de loi de financement de la sécurité sociale. À suivre aussi la chute inquiétante du nombre de licenciés dans les clubs de sport à cause du Covid. Emmanuel Macron est l'art de l'acrobatie en diplomatie. Il soutient l'opposition biélorusse mais plaide toujours pour le dialogue avec Moscou. Et puis à la fin, la sortie d'une publication bien connue des Parisiens, j'ai nommé l'officiel des spectacles.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes, celle par qui la révolution MeToo est arrivée. Jodi Kantor, journaliste au New York Times, co-auteur de She Said, les dessous de l'enquête qui a révélé l'affaire Weinstein et fait exploser le mouvement MeToo, s'est publié aux éditions Alizio.
France Inter.
Amnesty International, Sébastien, accuse donc l'État français de restreindre la liberté de manifester.
C'est la conclusion d'un rapport très sévère de 63 pages qui fait suite aux longues manifestations des Gilets jaunes et contre la réforme des retraites. Un rapport qui a compilé des centaines de témoignages et de condamnations judiciaires. Selon Amnesty, donc, les infractions utilisées par les magistrats sont parfois trop larges. L'outrage aux forces de l'ordre, par exemple, serait utilisé de façon abusive, comme quand une manifestante est condamnée pour avoir écrit sur un panneau « Oui au Muguet, non au LBD ». En clair, Ariane Grissel, Amnesty s'inquiète de voir pénaliser des manifestants pacifiques à cause de textes de loi français trop spécifiques.
Dans son rapport, Amnesty dit juger légitime le fait de vouloir prévenir les violences, mais l'ONG affirme noter, depuis les rassemblements de gilets jaunes, une hausse des interpellations sujettes à caution. Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty International France.
Dans les lois récentes, on peut citer l'interdiction de se dissimuler le visage, qui permet d'arrêter des personnes parce qu'elles avaient un masque pour se protéger des gaz lacrymogènes. Une autre loi qui a été beaucoup utilisée, c'est le délit de groupement en vue de la préparation de violences. On suppose une intention de commettre des violences sur la base de critères extrêmement faibles. La simple possession de lunettes de piscine pouvait vous faire emmener en garde à vue pour ce délit.
Signe, selon Amnesty, de la faiblesse de ces critères, 39% des gardes à vue à Paris et proches banlieues n'aboutissent à aucune poursuite, 12% au niveau national. L'ONG remet aussi en cause l'obligation de déclarer une manifestation. Marco Perolini est chercheur au sein d'Amnesty.
En 2019, il y a eu 42 personnes condamnées parce qu'ils avaient organisé des manifestations interdites ou pour les déclarer. Ce délit est problématique car en droit international des droits humains, ce système de déclaration préalable s'approche à un système d'autorisation absolument interdit en droit international des droits humains.
Amnesty conclut son rapport par une vingtaine de recommandations. L'ONG appelle notamment le Parlement à établir précisément les motifs pour lesquels des manifestants peuvent être interpellés.
Ariane Grissel.
7h33, la colère continue de monter chez les restaurateurs Sébastien et les patrons de bar.
Et pour tenter de calmer cette grogne, Jean Castex, le Premier ministre, accompagné de Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, et Alain Griset, le ministre des PME, reçoivent ce matin à Matignon les représentants du secteur de l'hôtellerie et de la restauration. La justice administrative, de son côté, doit examiner cet après-midi le recours en référé contre l'arrêté fermant bars et restaurants à Aix et Marseille. Il y a un autre secteur où la colère monte, les salles de sport, dont certaines ont décidé d'ouvrir malgré les arrêtés préfectoraux. Bataille judiciaire là aussi en perspective. Le sport qui fait les frais de l'épidémie. Les clubs de sport constatent en effet, en cette rentrée, une baisse vertigineuse de leurs licenciés. Un quart d'adhérents en moins, soit 4,5 millions de pratiquants qui manquent à l'appel et qui plongent les clubs dans l'incertitude totale, Fanny Lechevestrier.
Un exemple, le tennis de table. La discipline a perdu 30% de ses plus jeunes joueurs. Poussins et Benjamin constatent des emparés. Le président de la fédération, Christian Palierne.
C'est une galère et ce sont aussi des emplois qui sont menacés. Pas d'adhérents, pas d'entraînement, pas de nécessité d'avoir l'entraîneur. Ouais, c'est très dur.
Parmi les raisons de la chute, l'inquiétude des parents, bien sûr, mais pas seulement, souligne le président de la fédération française de judo, Jean-Luc Rouget.
Ce qu'il y a aussi, c'est les municipalités qui n'ouvrent pas aussi parce que c'est cher de désinfecter. Dans les zones rurales, elles n'ont pas les moyens de mettre du gel, de désinfecter. Elles n'ont pas les moyens humains et financiers.
L'ouverture des gymnases et des salles, le nerf de la guerre, La ministre déléguée au sport vient de l'autoriser, au moins pour les mineurs. Une lueur d'espoir pour les fédérations, à condition, alerte Philippe Bana, le directeur technique national du handball, que les villes s'y conforment.
Mesdames et messieurs les maires, s'il vous plaît, laissez ouvert les salles. C'est vital pour la santé physique et mentale des Français. Voilà, les éducateurs sont là, les gamins sont là. Il ne faudrait pas que les portes ferment.
Et il y a urgence, car au-delà de l'image assez désastreuse présentée avant les Jeux de Paris 2024, c'est toute une économie qui est en jeu. Le préjudice financier pour les clubs est estimé aujourd'hui à près de 800 millions d'euros.
Fanny, le chevet strié, l'épidémie de coronavirus qui pèse sur le sport et qui n'a pas fini de peser sur les comptes de la Sécu après un déficit record cette année. Une nouvelle perte est attendue l'an prochain, 2021. Le projet de budget de la Sécu est dévoilé aujourd'hui et les comptes Hélène Philly sont dans le rouge vif.
Il y a deux ans, le trou de la Sécu paraissait presque bouché. Le retour à l'équilibre se dessinait. Aujourd'hui, on en est bien loin tant la pandémie a fait plonger les comptes. Les recettes se sont effondrées et les dépenses ont explosé. Entre les masques, les respirateurs, les indemnités pour garde d'enfants, les tests, c'est une facture de plus de 10 milliards en 2020 et un déficit qui donne le vertige, 44 milliards 700 millions d'euros, confirmera ce matin la commission des comptes. Elle espère voir le trop diminuer dès l'année prochaine, même si de nouvelles dépenses sont prévues pour la dépendance, le congé paternité, les 7 milliards d'euros d'augmentation promis dans le Ségur de la Santé et plus de 4 milliards pour l'achat de matériel, de tests, pour un vaccin. Une enveloppe qui pourrait être insuffisante, juge déjà le Haut Conseil pour les finances publiques, surtout si l'on anticipe une éventuelle campagne de vaccination.
Hélène Philly, les caisses de l'État qui pourraient toutefois se remplir un peu avec le lancement aujourd'hui des premières enchères pour l'attribution de fréquences 5G. Quatre opérateurs, Orange, Bouygues, SFR et Free, sont dans les starting blocks. L'État devrait récupérer un minimum de 2 milliards d'euros. Au chapitre éco encore, les syndicats de Renault défavorables au plan d'économie de la direction. Renault prévoit de supprimer 15 000 postes, dont 4 600 en France, mais les centrales syndicales comptent bien voter non lors du comité social et économique convoqué aujourd'hui. Le feuilleton Veolia-Suez à 24 heures de l'expiration de l'offre de rachat de Suez. Veolia a affiché hier son optimisme à convaincre Engie d'accepter cette offre. Mais le patron de Suez a prédit une situation, je cite, ingérable si l'opération se concrétisait. L'actualité à l'étranger maintenant. Il sera le premier dirigeant occidental de haut rang à rencontrer l'opposante principale à Loukachenko, le président biélorusse. Le président français Emmanuel Macron doit en effet s'afficher aujourd'hui avec Svetlana Tikhanovskaya. Le chef de l'État est en visite en Lituanie et en Lettonie pour deux jours. Là-bas, il tente de tenir les deux bouts de la chaîne diplomatique, si l'on peut dire, défendre d'un côté les manifestants de Minsk et de l'autre, plaider pour le dialogue avec le parrain russe. Bref, Emmanuel Macron donne des gages aux pays baltes, mais sans renier son credo diplomatique, Louise Baudet.
C'est la conséquence d'une longue domination russe avant 14, soviétique après 45. En Lituanie comme ailleurs en Europe orientale, le nouveau dialogue franco-russe suscite méfiance, voire incompréhension. Emmanuel Macron évolue donc sur une ligne de crête, donnant des gages aux anciens satellites de Moscou, sans pour autant froisser un interlocuteur clé.
Si nous voulons construire la paix durablement sur le continent européen, il nous faut travailler avec la Russie. Car nous partageons une histoire et une géographie. Nous ne pouvons pas faire comme si l'Europe était une île loin de la Russie.
Et pourtant, la méfiance vis-à-vis de la Russie s'invite à chaque étape du déplacement présidentiel. Initiative commune contre les cyberattaques et la désinformation, visite au contingent français engagé avec l'OTAN dans la région. Sans oublier l'explosif dossier Navalny qui confirme l'impasse des relations avec Moscou.
Il s'agit d'une tentative d'assassinat sur le sol russe contre un opposant russe avec un agent chimique qui a été manipulé en Russie. Et nous devrons tirer toutes les conséquences des informations que la Russie apportera ou pas, ou de son refus d'apporter les clarifications.
Ou comment combiner dialogue et franc-parler sans que pour l'heure cette stratégie n'infléchisse d'un iota les choix et les longs silences du puissant voisin russe. Vilnius, Louise Baudet, France Inter.
Voilà l'art de l'équilibrisme diplomatique de l'Elysée. On y revient dans la chronique de Pierre Aski à 8h17. Encore à l'étranger, le conflit qui se durcit dans le Haut-Karabakh. Les combats entre l'armée d'Azerbaïdjan et les forces séparatistes arméniennes ont fait des dizaines de morts hier. 95 morts, dont 11 civils. Le Conseil de sécurité et l'ONU doit se réunir d'urgence aujourd'hui à huis clos.
7h39 et conseil d'administration historique à l'Académie des Césars.
Les 182 membres de l'Assemblée Générale nouvellement élue se réunissent aujourd'hui virtuellement pour entériner la nomination à la présidence du binôme qui va remplacer l'ancienne direction accusée d'opacité et d'entre-soi, un tandem formé, on le sait maintenant, par l'ex-patronne d'Arte, Véronique Kella, et le cinéaste Éric Toledano. L'épilogue d'un long feuilleton, mais sur la table encore quelques obstacles, notamment le maintien de Roman Polanski au sein de l'Académie. On termine avec un petit journal qui va sans doute vous dire quelque chose si vous aimez sortir à Paris. Un titre de presse vieux de 70 ans, l'officiel des spectacles, ressort ce matin après une suspension depuis mars à cause de l'épidémie. Une ressortie avec à la clé une maquette tout en couleur, Alexandre Hakoun.
Nous avions tellement l'habitude d'avoir l'officiel, et n'ayant pas de smartphone, ça a été vraiment une perturbation folle.
À près de 80 ans, Pierre n'est pas une exception. Et des témoignages comme le sien, Valérie Rousselot en a reçu des centaines ces derniers mois. Elle est la directrice de l'officiel des spectacles.
On a reçu beaucoup d'appels et de lettres de lecteurs qui nous disaient « Mais moi, je n'utilise pas Internet, je veux une autre façon de trouver les programmes cinéma, théâtre. » D'où l'idée qu'on n'a évidemment pas du tout douté sur le fait qu'on allait ressortir l'officiel. La question, c'était de savoir quand.
Une seule fois, depuis sa création en 1946, la revue au petit format fait pour la poche avait dû suspendre sa publication. C'était en mai 68. Là, Valérie Rousselot a préféré laisser passer l'été.
On évalue à peu près le nombre de spectacles à l'affiche à Paris au mois de septembre, à peu près à 30% de moins que d'habitude. Ça laisse quand même pas mal d'offres. Puis surtout, c'était d'ailleurs le dilemme qu'on a eu cet été, c'est de se dire justement qu'il ne faut pas d'autant plus sortir l'officiel que l'offre culturelle n'est pas dans son état habituel. Donc il y a d'autant plus un besoin d'informer le public pour savoir ce qu'il peut aller voir.
D'autant que depuis la disparition du Pariscope en 2016, l'officiel des spectacles occupe seul, en kiosque, le créneau de l'agenda culturel sur papier. Demain, les lecteurs découvriront un passage à la couleur et une maquette allégée. Pour le reste,
il va sortir avec presque toute sa pagination, 160 pages.
Et un prix de vente qui n'a pas bougé, 1,40€.
Alexandra Hakoun, un officiel des spectacles d'août en couleur. Nicolas, ça va vous changer.
Oui, et nous rajeunir. Sébastien Legénie, merci.